7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisseau et Kouni Tassel pour que tu rêves encore, 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 encore. Nova.
Je me rappelle, il y a une période quand j'étais petit et quand j'étais pré-ado, on va dire. Des fois, j'arrivais à contrôler en fait ce qui se passait dans mes rêves. J'en profitais et en fait, genre, je me rappelle que intentionnellement, en fait, je sautais dans le vide. J'essayais de voler. Et en fait, quand je commençais à devenir ado et tout, je pensais au sexe directement, en fait. J'ai eu des expériences sexuelles dans mes rêves.
Nova ?
Ça marchait pas tout le temps, c'était pas exactement comme je voulais. Des fois, c'était bizarre et tout, parce que c'était des rêves.
Pour que tu rêves encore.
C'est bien de pas complètement contrôler ses rêves. Je suis sûre que ce monsieur qu'on écoutait a appris plein de choses dans le domaine de la sensualité.
Bah, c'est sûr.
Proposé par ses rêves. Continuez de rêver, hein, chers auditeurs, il n'est que 7h01 du matin. On vous laisse finir vos songes. Peut-être quand même, Queenie, on se dit bonjour.
Oui, quand même.
Et on dit bonjour aux autres gens qui sont réveillés.
Qui dorment pas.
Bonjour à toutes, à tous et à tout l'argent qui dort encore pendant que vous vous réveillez doucement. Mais pour commencer ce jeudi 16 janvier, ne m'en voulez pas, pour une fois j'ai une information économique.
Ah bah quand même.
Allez, je l'attends. Je voudrais dire bonjour et bon courage, surtout aux petits épargnants. À tous ceux qui sont plus pièces jaunes que billets verts. Oui. Chers pauvres, je lis ce matin que le taux du livret A va baisser à 0,5% le mois prochain.
Ah bah c'est pas beaucoup.
Voilà, c'est la une du Parisien. 0,5%, je dirais pas que c'est pas beaucoup, je dirais que c'est rien, c'est plus rien.
Oui, d'accord.
Je dis donc aux Français qui m'écoutent, arrêtez de petit épargner, dépensez tout ce jeudi, ne gardez rien, claquez du bif, faites-vous plaisir. De toute façon, il n'y a plus de retraite et la terre explose dans 5 ans. Alors, peut-être quand même, non, attendez la fin des soldes.
Okay.
J'ai checké, c'est le 4 février prochain, parce que si vous achetez des trucs non soldés, ça vous permettra de dépenser plus vite.
Ah,
vous voyez,
oui.
En se fatiguant moins.
Ah bah oui, c'est
voilà,
mieux.
Voilà, quitte à vider nos caisses, autant ne pas se fatiguer. Voilà, de rien, c'était mes conseils bancaires.
Merci.
On va maintenant passer à un sujet un peu moins terre à terre, mais tout aussi éphémère. J'ai trouvé une étoile en fin de vie.
Oh non.
Elle s'appelle Bételgeuse. Et malgré ce nom d'engin de chantier, c'est une étoile qui a beaucoup de charisme. Elle est orange, c'est l'une des plus brillantes de la Voie lactée. C'est sûr, je sais que vous l'avez déjà vue, en pensant que c'était la planète Mars. Mmh. Parce que vous êtes comme moi, vous êtes hyper mauvais en étoiles. Mmh. Vous faites genre en été à la campagne pour draguer, mais vous savez en vrai jamais où elle est la casserole. Bref, non. De toute façon, c'est bientôt fini. Bételgeuse pâlit. Oh. Elle perd de son éclat de jour en jour. Il paraît que les télescopes du monde entier sont à fond sur elle en ce moment, même si je trouve ça pas très élégant de zoomer sur une agonie. C'est parce qu'en fait sa mort promet d'être belle. Mmh. En explosant, Bételgeuse va devenir d'un coup aussi grosse et brillante que la Lune, et elle sera entourée d'échos comme des ronds de lumière.
Wow.
C'est ce qu'on appelle scientifiquement une supernova.
Ah bah c'est comme nous.
Voilà, exactement, Queenie. Donc évidemment, Nova vous promet de suivre attentivement le dossier. On fera une matinale spéciale en direct de Bételgeuse.
Oui.
Supernova FM entourée de stars. Soyez à l'écoute, c'est d'ici quelques semaines à 100 000 ans.
Ah c'est précis.
Disent les spécialistes. Voilà, la mort de Bételgeuse, on sera là même si dans 100 000 ans, Pour que tu rêves encore sera peut-être présenté par un robot,
oui,
ou par nous en version cryogénisée.
Nova.
Queenie, vous allez nous faire écouter un disque,
oui.
Un disque pour Français pas contents. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un an, rappelez-vous, le gouvernement avait lancé une grande campagne d'écoute des réclamations. Vous vous souvenez, c'était les fameux cahiers de doléances dont on parlait tant. Dans chaque mairie de France, il y avait donc des carnets avec des idées, des questions, des remarques venues de ce grand débat national. Au total, 16 000 cahiers,
oui,
avaient été noircis, ils devaient être numérisés à la Bibliothèque nationale de France pour que tout le monde puisse les consulter. Sauf que, on a appris il n'y a pas longtemps que faute de place sur les disque dur, ces doléances n'ont jamais été numérisées.
Jamais.
Problème informatique. Ils sont donc actuellement dans des cartons d'archives des mairies françaises. Mm-hmm. C'est bien, le débat national avance. Alors Queenie, vous avez un morceau ce matin pour les gens des archives des mairies françaises.
C'est un morceau qui a été aussi retrouvé dans les cartons. C'est Deep Shadows de Little Anne. He doesn't know. C'est un morceau de soul qui avait disparu. Le premier enregistrement, il date de 1967 à Chicago. Et malgré la beauté de ce morceau, Little Anne n'avait pas convaincu le producteur Dave Hamilton, qui avait mis le projet dans un placard. Donc le projet avait refait surface dans les années 80, dans le nord de l'Angleterre. Et tellement elle n'était pas connue, il l'avait renommée Rose Valentine. Rien à foutre du blaze. Il a fallu attendre 2009, 6 ans après sa mort, pour que l'album sorte enfin sur le label finnois Timian. Que d'aventure pour un morceau qui a pourtant la recette parfaite d'un tube soul, une voix particulière qui rappelle celle d'un Michael Jackson époque Jackson 5, des chœurs qui font ouh, une mélodie qui vous berce et surtout une instru qui a été samplée par un rappeur. Comble du tube soul. Là, elle a été samplée par Loyal Carner l'année dernière. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. On peut donc dire que l'époque des cartons dans un grenier est révolue pour Deep Shadow de Little Ann, qu'on dédicace donc aujourd'hui aux cahiers de doléances qui, eux, sont bien et bel et bien dans les placards des mairies françaises.
Un morceau qui n'est pas en carton, donc c'est Little Ann qu'on écoute tout de suite.
Bonjour à vous.
Bonjour, merci. Salut. D'avoir appelé.
Je vous en prie.
Vous êtes fan de Chlorine Free ?
Oui, j'aime bien. J'ai beaucoup écouté.
Alors, Emeric, il y a vraiment un problème par rapport à où vous êtes. Est-ce que vous êtes au milieu d'objets contondants ? Parce qu'on entend plein de sons qui tapent dans votre téléphone. Voilà, je vous laisse le régler. Pendant qu'on dit aussi bonjour à votre adversaire de ce matin, c'est James. Salut, James.
Bonjour.
Oh, le son est nickel. James, d'où nous vous appelez-vous ?
Sony Université, là je passe devant.
Ah, vous savez pas parce que vous êtes en voiture.
Voilà.
Vous voyez les...
Sony Université.
Très bien. Bon, allez,
j'ai fréquenté les bancs, moi, un petit peu. Bon, c'est une histoire personnelle.
Ah. Oh, c'est un très bel aveu. Oui. Kounia a fait la fac. Alors, Emeric et James, ce matin, on a donc deux places pour le concert de Chlorine Free au New Morning à Paris à vous faire gagner. Mais pour ça, vous allez d'abord devoir vous affronter devant la dame de BFM TV qu'on embauche tous les jeudis pour nous raconter des films de ciné super connus. C'est juste à vous de retrouver, en écoutant la dame de BFM TV, de quel film il s'agit. Je veux le titre. Le premier qu'il trouve, il remporte les deux places de concert. Ok ?
Ok.
Emeric, c'est vous qui avez la main. Écoutez bien pour le premier indice de la dame de BFM. Et c'est au terme d'une longue et douloureuse enquête dans cet état reculé du Wyoming que nos reporters ont pu jeter une lumière trouble sur ce lourd secret. Pendant 20 ans, à l'issue de tous, ces deux... Oula.
La petite maison dans la prairie.
La petite maison dans la prairie et dans le Wyoming, donc on vérifie cette réponse.
Un candidat limité pour le moment.
Ah. Sorry, Emeric. Je passe donc à James. Est-ce que vous avez une autre idée ?
Pas du tout, pour l'instant.
Bon, bah alors on écoute le deuxième indice. James, c'est vous qui avez la main. C'est ici,
au cœur de ce troupeau de brebis que les deux hommes se sont aperçus pour la première fois. Une rencontre strictement professionnelle que rien ne destinait à devenir amicale, puis passionnément amoureuse.
Oh, c'est coquin.
Oh, c'est des brebis dans le dos. James, qu'est-ce que c'est ce film?
The Brokeback Mountain.
The Brokeback Mountain. Je suis pas sûr que ce soit le titre exact.
Ah, Brokeback Mountain.
Vous dites Brokeback Mountain, on vérifie.
Give me the wings to fly.
Ça se sent qu'il y a de l'amour dans ce film. Ça se sent.
Bravo.
Alors, je vous l'accorde. Je vous l'accorde, Jamie, mais c'est le secret de Brokeback Mountain.
Ok, pardon.
Non, mais au nom de tous les moutons de France, c'est validé. James, bon concert. Rien ne vous empêche d'inviter Emeric.
Mais oui.
Je le dis chaque matin, chaque fois sur voilà, une sorte de...
Il y a toujours une petite gêne.
Ouais, à chaque fois. Et après, ils disent non.
Ouais.
Bon, des bisous tous les deux. Il est 8h04, vous écoutiez de la musique soul sur Radio Nova et une fois n'est pas coutume, la radio va allumer la télé ce matin. Alors, c'est une vieille télé, hein. Il n'y a qu'un seul bouton parce qu'il n'y a qu'une seule chaîne. Nous sommes au tout début des années 60, Radio Nova n'existe pas et à l'époque, le passage obligé pour tous les chanteurs de variété comme Françoise Hardy qu'on écoutait à l'instant, mais aussi Sylvie Vartan, Johnny, Barbara Gainsbourg, tous passent dans l'émission Discorama. Une émission animée par une petite femme très chic, assise de travers sur une chaise. Elle s'appelait Denise Glaser. C'est en fait la première journaliste musicale de l'histoire de la télé française. Une femme aussi incroyable que totalement oubliée aujourd'hui et qui revit dans une pièce de théâtre géniale intitulée Variété. Sarah Le Picard, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vous qui vous mettez dans la peau de Denise Glaser, donc dans la peau d'une vraie personne. À qui, et c'est ça qui est génial dans la pièce, vous avez piqué les vraies questions qu'elle posait aux chanteurs à l'époque dans Discorama. Donc vous avez digué des heures d'archives de Denise Glaser. Qu'est-ce qui vous fascine chez cette journaliste? Est-ce que c'était sa façon de poser les questions? Est-ce que c'était son personnage?
C'est une vaste question. Oui, un peu tout en fait. C'est la façon qu'elle a de faire de la télévision, c'est-à-dire en parlant très peu et en laissant beaucoup de silence. Ce qui est absolument impossible aujourd'hui. On ne voit pas la télévision des gens qui ne parlent pas et réfléchissent devant nous, en fait. Et je crois que c'est la chose qui m'a mise en arrêt la première fois que je suis tombée sur un extrait, qui était donc le premier interview de Véronique Sanson, qui a 19 ans, qui est sublime, et qui dit « je n'aime pas parler ». Elle dit « très bien ». Et puis elle se taise.
Et puis elle se taise. Voilà. C'était un peu des... Moi, du coup, j'en ai regardé beaucoup après avoir vu votre spectacle. Ces archives, c'est sur l'INA, des entretiens de Denise Glaser. Il y avait un peu des moments de malaise aussi, quand même. Parce qu'elle les regarde comme ça, c'est très proche. Ils sont l'un en face de l'autre. Il n'y a que ça, il n'y a que deux chaises. C'est un studio tout blanc. Et elle les laisse quand même un peu, des fois, galérer à répondre.
Ah ouais, totalement. Et puis je pense que pour eux, c'était assez terrifiant parce qu'ils savaient qu'ils avaient en face d'eux une femme très intelligente, très bienveillante, mais qui n'allait pas tellement les aider. Et elle-même, je crois, était terrifiée, en fait. Elle était très, très timide et elle a d'ailleurs mis du temps avant d'assumer, de présenter vraiment l'émission. Il y a eu plusieurs formats avant que l'émission se trouve. C'est dans les années 60, je crois, 61, 62. Vraiment, le dispositif est magnifique. C'est juste un studio tout blanc, deux chaises. Tout est à vue. Les projecteurs,
voit les caméras,
on voit tout. C'est très moderne. On se dit, mais c'est les années 60. Et en fait, c'est un réalisateur qui s'appelle Raoul Sangla qui a dit, bon, bah, de toute façon, on n'a pas d'argent. Alors autant faire avec rien. Et c'est très beau, quoi. Et ça va très bien avec cette émission où, effectivement, il n'y a rien d'autre que cette femme qui pose une question à des chanteurs et des chanteuses et qui les laisse parler et se révéler.
À la fin de l'interview de Mireille et Mathieu, vous parliez de la timidité des deux.
Oui.
Il y a Denise Glaser qui lui dit : est-ce que vous avez eu peur ? Et Mireille Mathieu, toute jeune, a dit oui. Et elle répond : Denise Glaser, rassurez-vous, moi aussi. Plus quelqu'un est intimidé, plus c'est intimidant. C'est des moments que vous le dites, on voit plus vraiment en interview. Mais aussi parce que les labels de disques, au bout d'un moment, on dit à Denise Glaser : il faut qu'on passe plus de chansons, qu'on écoute plus de chansons. Donc les moments de silence où on fume des clopes en se regardant dans les yeux, on n'a plus le temps, en fait.
Ouais, c'est ça. en fait, elle a vraiment inventé ce genre. Même les interviews de chanteurs, en réalité, il n'y en avait pas tellement avant son émission. C'est vraiment elle qui a proposé cette émission, cette façon d'interviewer les chanteurs et les chanteuses. Et effectivement, elle s'est fait à partir de 68, en fait, aussi pour des raisons politiques.
Ouais, même parce si qu'elle était de gauche. C'était une des seules femmes de la télé française à être de gauche à l'époque.
Absolument. On disait vraiment que c'était le petit bastion rouge, en fait, au milieu de la grande maison bleue qui était la RTF et puis l'ORTF. Et donc, elle a été poussée un peu vers la sortie, mais en même temps, les gens l'adoraient. Elle était vraiment... Enfin, je veux dire, quand on parle à des gens d'un peu plus de...
On vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, effectivement. Voilà.
Mais si on en parle à quelqu'un de 60 ans, il dit tout de suite « Ah mais oui, mais le dimanche, discorama avec toute la famille. » Enfin, ça a été vraiment un moment...
Oui, puisque c'était le dimanche juste avant le déjeuner. Alors, cette Denise Glaser qu'on fait revivre ce matin, c'est vous qui l'interprétez, Sarah Le Picard. Est-ce que vous allez pouvoir nous faire une petite interview à la Denise Glaser? On va voir. Je sais que c'est une question piège, mais vous la faites hyper bien. On se croirait dans les années 60 quand on regarde votre spectacle Variété. Ça arrive, on voit ce qu'on fait juste après la pub, à tout de suite.
Nova, pour que tu rêves encore.
Dalida, je suis très contente de vous voir parce que vous êtes quelqu'un, non seulement quelqu'un qui m'intéresse beaucoup, mais quelqu'un qui m'intéresse de plus en plus. Alors, j'allais dire qui m'intéresse de plus en plus avec le temps.
Oui, je vous écoute.
C'est cash, hein. C'est quand même très cash comme début d'interview. C'était donc la journaliste Denise Glaser qu'on entendait interviewer Dalida, qui est un peu là, ouais, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je l'intéresse de plus en plus, ce qui veut dire qu'au début, elle ne l'intéressait pas beaucoup. C'est donc un extrait de cette émission culte Discorama que vous mettez en scène au théâtre. C'est vous, donc Sarah Le Picard, qui fête Denise Glaser. C'est jouissif ou pas de jouer une journaliste un peu piquante comme ça, qui donne son avis aux artistes et qui est pas gentille, quoi?
Bah oui, très. Enfin, franchement, c'est très agréable. Après, dans la création, parce qu'on a un moyen d'écriture qui est qu'on improvise, en fait, on part de plein de documents qui existent. Donc là, on a regardé beaucoup d'interviews et après, on a réimprovisé les choses. Il y a eu quand même un moment où j'étais un peu impressionnée par mon personnage. Enfin, j'avais un peu trop d'admiration pour Denise Glaser et donc c'est un peu intimidant en fait de jouer quelqu'un qui est très intelligent, très fort, qui a en plus été une résistante, qui était politiquement vraiment irréprochable de tous les combats et en même temps élégante. Donc on n'arrêtait pas de dire non mais elle est tellement belle, elle est tellement chic et tout. Et moi je me disais oh là là là, mais moi je suis pas du tout.
Oui, parce qu'on précise que vous la jouez, mais ce qui est super aussi c'est que c'est pas une imitation. Vous imitez pas et les chanteuses Sylvie Vartan et tout et Denise Glaser, vous prenez ce rôle et
ouais, voilà,
il a
fallu le réinventer en fait, se dire bon bah maintenant c'est ça, c'est formidable et puis les gens iront regarder les extraits sur internet mais maintenant il faut se l'approprier. Ouais. Puis de toute façon j'ai rien à voir physiquement, j'ai pas mis de... Enfin je veux dire on s'est pas dit qu'on allait faire un biopic, au contraire en fait c'était partir de là et puis rêver à notre façon en fait tout ce discorama qu'on a appelé variété et pas discorama aussi pour que les fans de la première heure et ne viennent pas me faire un procès après en disant non Denise n'aurait pas dit ça et d'ailleurs
j'ai pas du
tout coiffée comme elle.
En face de vous qui fait Denise Glaser, c'est bien aussi, c'est malin parce que c'est pas une chanteuse qu'on connaît. Du coup c'est pareil, c'est pas à la limite Françoise Hardy, il y a une autre comédienne qui joue avec vous, qui est très très douée, très très drôle, et qui interprète une chanteuse qu'on voit revenir pendant 15 ans, parce que Discorama ça a duré 15 ans. Alors première interview, elle est complètement oie blanche, elle a rien à répondre, et on comprend qu'elle est aux ordres d'un compositeur, auteur, manager qui est dans l'ombre. Ça c'est un peu Mireille Mathieu.
Absolument, ouais. Et je dis, l'actrice s'appelle Anne-Lise Einburger.
Einburger, ouais.
Voilà, et la musique a été réarrangée, réécrite par Florent Hubert.
Ouais, vous faites plaisir à faire des chansons de yéyé un peu con.
Oui.
Qui sont vraiment très marrantes. Et puis deuxième interview, elle revient. Vous l'avez appelée comment? Véronica May.
Ouais, Véronica May. Voilà.
C'est un très bon nom de chanteuse de variété. Et elle revient, et là, elle est au sommet de sa gloire. Et tout d'un coup, bon, alors, elle a un tournant, elle a un concert à Bobino avec des percus chiliennes et des chœurs d'enfants chinois, c'est n'importe quoi. Mais on sent que, en fait, même ces chanteuses, elles ont un peu pris le pouvoir en tant que femmes aussi.
Oui, c'est ça. L'idée, c'était d'utiliser ce dispositif qui ne change pas pour que le temps passe et que donc cette chanteuse, on puisse vraiment s'amuser parce que c'est ce qu'on peut faire au théâtre avec des tout petits détails, des cheveux qui se lâchent, enfin le temps qui passe, juste une façon de parler un peu plus cool, on comprend qu'elle s'est libérée en fait.
Et qu'elle regarde enfin à la caméra parce qu'au début de Discorama, au tout début des années 60, on sent quand on regarde les archives que les Gainsbourg, Françoise Hardy, tout ça, ils savent pas ce que c'est que la télé.
Absolument, ils sont totalement innocents, c'est comme une enfance par rapport à sa propre image, et c'est ce qui est très beau, c'est qu'en fait, c'est pas un moment où on a conscience de soi comme on le fait maintenant, où tout le monde se filme tout le temps, on sait très bien comment il faut se mettre. Là, non. Juste, ils sont comme à l'école, en fait. Il faut parler bien, se concentrer, pas dire de bêtises, être bien habillé. Et en même, et donc tout leur échappe. Et c'est très beau de voir ça.
Il y a une, là, ça va faire un peu moment vieille icône. Bernard Pivot, c'était mieux avant, mais il y a aussi une langue des années 60 qui est incroyable. Ils parlent tous super bien, vraiment pas comme nous là.
Ouais, malheureusement, on a perdu beaucoup, mais c'est vrai, ouais. Et ça aussi, c'est fascinant, c'est qu'il y a un choix, une qualité du vocabulaire, de tout en fait. On sent que c'est une langue qui est encore très littéraire, que quel que soit le milieu d'ailleurs d'où viennent les chanteurs, parce que il y a plein de chanteurs qui viennent de milieux très populaires. Ça, c'est Sylvie Vartan qui dit moi je comprenais rien en fait à plein de trucs, j'avais pas les références et tout, même pour les chansons. Mais sa langue, et d'ailleurs elle est roumaine, elle est arrivée en France, elle avait 7 ans.
Sylvie Vartan.
Ouais, elle a aucun accent et elle parle un français bien meilleur que le mien.
Puis la troisième interview à la fin du spectacle, là, on revoit Véronica May, la fausse chanteuse de variété, arrive. Et là, c'est crépusculaire. Elle en peut plus. Elle est au sommet de sa gloire. Et elle, c'est une très belle scène. Elle déballe littéralement son sac. Il y a Denise Glaser qui lui dit vous avez quoi? Une question encore, on ne sait pas quoi répondre. Elle dit j'ai quoi? Elle déballe son sac. Et ça, c'est une scène qui a vraiment existé dans Discorama.
Absolument.
Elle décrit tout ce qu'il y a dans son sac pour essayer de faire le point sur sa carrière.
Et c'est Léo Ferret qui vide ses poches. Il est en interview. Bon, Léo Ferret était un très bon client parce que je pense que ça. Il était toujours tellement à fleur de peau, et Denise Glaser, elle est vraiment maligne avec ça, parce que en fait, elle, sans rien faire, elle le laisse se dérouler lui-même.
Il craque en direct. Vraiment.
Ouais, il pleure, et alors ça, c'était son grand sens du montage, c'est qu'en fait, il pleure. Et il demande qu'on coupe. Elle dit oui, très bien, on va prendre quelques temps. Mais après, au montage, elle laisse ça.
Elle a laissé le off.
Elle a laissé le off, le moment où elle le laisse reprendre ses esprits, où elle lui dit on va reprendre, oui. Il repleure à nouveau. Elle dit on s'arrête un petit moment. Et elle laisse tout ça au montage. Donc en fait, c'est. Et après, il n'était pas content qu'elle ait tout laissé au montage.
Évidemment, elle a très bien. Variété, excellent spectacle. Vraiment, j'encourage tout le monde à aller voir. Et puis ensuite, comme ça, vous vous ferez une semaine d'archives de Lina pour aller voir l'émission Discorama. C'est donc jusqu'à ce soir. C'est ce soir la dernière représentation avant une tournée qu'on espère nombreuse. C'est donc au Théâtre de l'Aquarium à Vincennes.
Absolument, ouais.
Merci beaucoup, Sarah Lepicard, d'avoir fait revivre les années 60.
Nova.
On va vous faire lire des BD aussi ce matin, puisqu'on est toujours avec Manu Larchenet à bord du Marie Transport. Alors, dans un épisode précédent, Manu Larchenet racontait comment sa bipolarité réelle avait eu un impact sur son rythme de sommeil, mais aussi sur sa BD, son chef-d'œuvre, hein, Blast. Et comme certains refoulent des souvenirs, en fait, Manu Larchenet lui refoule des mots. C'est en tout cas ce qu'il vient de dire à Marie Transport dans le taxi qui les transporte.
Vous allez où ?
Service d'accompagnement de personnalité au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Marie Transport, épisode 4.
Alors, on est toujours dans le taxi qui nous mène au travail de Manu Larchenet, c'est-à-dire faire de la promotion pour thérapie de groupe. Et tu viens de me dire donc que tu refoulais des mots.
Oui, de plus en plus. Le premier, c'est pathologique. C'est un mot quand j'ai compris que j'étais malade, c'est-à-dire très récemment, ce mot, du coup, est sorti de mon vocabulaire. Et quand je le cherche, je ne le trouve pas. Et aussi, quand on déteste le reste du monde. Quand on déteste les humains, pardon.
Misanthrope.
Misanthropie. J'arrive pas à me le fixer. Donc j'ai décidé, récemment, que je suis tatoué un peu, et dans le dos, j'ai rien, et je vais me faire un pense-bête dans le dos.
Bah, c'est dommage de le faire dans le dos, si je peux me permettre. Un pense-bête, tu dois le voir.
Eh ben, je le mettrai à l'envers. Je le ferai rire à l'envers, comme ça, quand je me regarderai dans la glace, eh ben, je pourrais.
Alors, pathologie, on peut comprendre, on se dit que c'est un truc que t'as pas envie de dire ou d'entendre, mais misanthrope.
Là, j'ai pas bien su pourquoi. Peut-être j'ai un peu honte de parfois d'être aussi agressif et aussi. Je peux être méprisant si je veux, quoi. Et je suis pas fier spécialement, tu vois, mais des fois, il y a des gens qui le méritent aussi, quoi. Mais tu vois, c'est toujours l'équilibre, quoi. Pas devenir un gros con, mais en même temps, ça va des fois, quoi. En fait, voilà, dans la vie, tout est question d'équilibre, et pour les gens déséquilibrés, c'est beaucoup plus dur. C'est vrai.
Ça semble assez logique. Ta maladie, t'avais dit une fois que quand t'as dessiné Blast, t'avais arrêté de prendre des médicaments. C'était une décision artistique.
C'était une décision stupide. C'était effectivement parce que j'étais. C'était un moment où le traitement commençait vraiment à prendre et je me sentais quand même mieux. Et je me suis dit, c'est pas le bon moment en fait. Parce que je vais perdre ce que j'avais envie de dire dans Blast. Attention, je vais tout oublier. Je vais soit refouler, soit oublier ce que c'est que la vraie douleur mentale, quoi. Même la dépression, même tout ça, je vais oublier parce que et ça va devenir des caricatures. Et donc j'ai arrêté de prendre mon traitement. Et effectivement, j'ai pu comme ça me replonger dans des abysses rigolos pour faire blast. Mais c'était une erreur monumentale parce que ça fait.
C'est sûr que c'était une erreur. Tu aurais pu le faire sans.
Je crois quoi. Ouais. Je crois que je suis assez fort en fait. J'aurais pu le faire. Parce que arrêter le traitement, c'est stupide. C'est jouer avec sa santé. J'ai mis tellement de temps, si tu veux, à avoir un traitement, à que les gens comprennent, enfin, à que quelqu'un m'aide, que c'était vraiment d'une grosse connerie. C'était une grosse connerie.
On est arrivé, monsieur. Oui, on est arrivé. On espère que ça va aller mieux, monsieur, pour
ouais,
vous.
Pour vous.
Merci. Hein, on est désolé. Bon courage.
Bon courage pour aujourd'hui, puis pour les prochains jours.
Et donc. Oh bah on peut boire un café.
Attention. Elle a failli se faire taper par un scooter là, mais ça va pas madame hein.
Marie Transport, une série à retrouver en podcast sur nova.fr. La chronique textile.
Alors Yvan Jacob, hier vous êtes allé sur Twitter, ce réseau social où on a plein d'informations, et vous y avez vu la marque Decathlon souhaiter un bon anniversaire à Jules, le rappeur marseillais. Donc c'était les 30 ans de Jules, alors oui c'est important, mais pourquoi une marque de vêtements de sport s'intéresse à l'anniversaire d'un chanteur ?
Eh bien Marie, on ne sait pas forcément, mais Decathlon c'est le plus gros vendeur de vêtements en France, et Jules, eh ben, il les adore ces vêtements.
Pour éviter les problèmes, je ne dirai plus, je t'aime. J'ai fait des sous et je m'habille à Decathlon.
Ah ouais. Je fais des sous et je m'habille à Decathlon. C'est dans le titre Je dirai plus je t'aime. Et c'est vrai qu'il pose fièrement en doudoune quechua, veste technique Kalenji, sweat d'entraînement Kipsta. Decathlon a d'ailleurs joint à son message d'anniversaire les photos de ses plus beaux looks. Et puis surtout, il les porte dans ses clips. La première fois, c'était en 2015, dans la vidéo en Y. Vu, attention, près de 65 millions de fois au total.
Oui, donc c'est évidemment une super promo pour Decathlon.
Bah ouais, une promo aussi inattendue que bienvenue. Il y a encore quelques années, la marque souffrait d'une image un petit peu ringarde. C'était utile mais pas stylé, fonctionnel, sobre, mais assez loin du cool. Alors forcément, quand un rappeur aussi suivi que Jules la cite plusieurs fois dans ses textes, ça fait du bien. En quelques mois, Decathlon est redevenu hype. La veste Kalenji, que le rappeur adore, elle a même été rebaptisée Kalenjoule par
bien
les
sûr,
fans.
Bien sûr.
Et le Decathlon des terrasses du port à Marseille est le numéro 1 mondial dans la vente de cette veste.
D'accord. Et en plus, Jules, c'est pas le seul à kiffer Decathlon.
Mais non, il a été suivi par d'autres rappeurs, SCH, qui aiment bien dire qu'il porte plus de 10 000 euros de vêtements sur lui. Et bien, il s'est lui aussi fait photographier en polaire quechua. Et puis beaucoup d'autres, RK, Sofiane, 13 blocs. 13 blocs dont l'une des punchlines a été énormément reprise sur les réseaux sociaux.
Quechua l'hiver, toujours en quechua.
Taille M quechua, taille M kipsta.
Quechua l'hiver, toujours en quechua. Taille M quechua, taille M kipsta. C'est dans le titre Zidane. Et un des membres de ce groupe, Stavo, il a même interpellé Decathlon directement sur les réseaux sociaux.
Decathlon, je sais pas si c'est qui le boss, mais je vous passe un message, là c'est Stavo. On veut des survêtes quechua. Nous les mecs de cité, on veut des survêtes quechua. Ça fait combien de temps on vous donne notre argent?
Mais c'est une vraie colère. Hein.
Ah ouais.
Qu'est-ce qui se passe avec Decathlon? Pourquoi ils kiffent tout ça?
Et ben la mode, elle serait née en prison. Les détenus doivent faire profil bas et ne pas porter de marque chère pour ne pas attirer la curiosité des policiers. Et puis la mode passe à la rue et de la rue au rap et vice-versa. C'est aussi souvent cité dans les textes comme l'uniforme du guetteur ou du vendeur de drogue qui doit rester toute la journée dehors et qui a besoin de vêtements chauds. Ce qui est sûr, c'est que ça marque une rupture avec l'esthétique rap bling-bling quechua à la place de Gucci ou de Louis V.
Et du coup, ça, Louis V, mais ça va pas, c'est Louis Vuitton.
On dit Louis V dans le graphe.
Pardon. Et du coup, ça traduit aussi ce changement de vêtements, c'est aussi un changement de valeur.
Bah, dans le cas de Jules, c'est un peu devenu le symbole d'une fidélité à la rue, au quartier, une preuve de la sincérité qu'il revendique. Malgré la réussite, eh ben, il ne change pas. C'est aussi le reflet de ses textes qui racontent plus la vie quotidienne à Marseille que la vie rêvée d'un rappeur millionnaire. Dans le rap, en tout cas, où la SAP a son importance, on passe d'une logique de distinction à une logique d'inclusivité. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans qui expliquent qu'ils vont chez Decathlon parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour se payer du Nike. Hey,
j'ai ma quechua.
Pardon, mais c'est très efficace toute la pub que vous venez de faire pour quechua.
Je croyais qu'il parlait de l'enfant de quechua, moi, mais du coup, j'ai rien compris en fait.
Roulez-vous dans une 2 secondes. On va s'acheter une 2 secondes et une polaire à Marseille.
Et on sait pas, on enfile lequel du coup.
On va se mettre une petite 2 secondes et on va sortir un single. Bon, c'est un moment d'émotion un petit peu méta. Je dois dire bonjour à une auditrice qui s'appelle Marie. Bonjour Marie.
Salut Marie.
J'adore votre prénom. Je sais pas d'où il vient, mais...
Bah pareil.
Oh bah, moi je sais pas d'où vient mon
prénom. Ça va, vous passez de la crème tranquille ou quoi?
Bon, demain on aura une chronique qui nous appellera. En attendant Marie, c'est vous qui allez jouer au quiz ce matin pour essayer de gagner notre bon d'achat de 300 euros chez Tony Lafrip. Le record, il est à 13. J'espère que ça vous portera chance et que vous allez le battre. Alors, tout commence par... j'ai pas le quiz, en fait, dans la main. On est sur un... Alors, voilà, c'est une émission en direct.
Pardon, excusez-moi.
On fait un vrai moment de radio. Ça y est, tout commence par « dans » ce matin, comme « densité »,« densification » ou « dans ton cul », mais j'avais pas envie de le dire. Ça vous va, Marie?
J'espère que je l'aurai. Ouais, parfait.
Bon, moi, je vous souhaite tout plein de bonheur, évidemment. Queenie, vous êtes pour Marie ou vous êtes...
Bah, je suis pour les deux Marie, là.
Ok.
Il faut être pour qui?
On va faire un beau show. 45 secondes, c'est parti.
Go.
Alors, c'est les molaires, les prémolaires, les canines.
Les dents.
Voilà. C'est des dents que vous enlevez le soir.
Dentier.
C'est le savon des dents.
Dentifrice.
Ok, les surfeurs, ils ont quoi sur leur collier?
Dents de requin.
Oui, c'est une émission où il y a des stars qui dansent.
Danser avec les stars.
C'est un film où il y a Kevin Costner qui danse.
Danser avec les loups.
C'est une danse où il y a le ventre qui danse.
Danse du ventre.
C'est le masculin de danseuse étoile.
Danseur étoile.
Complétez cette phrase. Attention.
Danger.
C'est un mec très élégant mais au 19e siècle.
Dandy.
C'était un mec aussi connu que Robespierre.
Passe.
C'était galère à coudre, c'est pour les napperons.
Dentelle.
Quand t'as démarche, c'est ta démarche quand t'as envie de pisser.
Dandine.
Oui,
Dandine.
C'est ça.
Oui,
c'est
tout à fait.
Je suis désolée, j'étais hyper émue en fait.
Bravo, bravo, bravo.
J'ai aussi que vous parce que je souhaitais très clairement votre victoire en raison de votre prénom. Alors, ça va être compliqué.
Bah,
la Queenie.
En fait, j'ai eu une petite montée en pression parce que vous avez fait un sans faute jusqu'à Danton.
Oui, le moment révolution n'est pas passé.
Danton
et
Robespierre.
Sûr, ça m'a mis points, ouais.
Vous êtes trop dans le présent, Marie.
Du
je vous comprends.
Vous avez fait 12 points.
Ah, c'est horrible.
Bah attendez, mais peut-être qu'elle sera en finale.
Oui.
Attendez,
vous êtes peut-être
on sait pas. On sait pas.
En tout cas, c'est pas le record.
Mais oui.
12 points, Marie.
Bah, c'était cool, en tout cas.
C'est vrai? C'était cool?
Bah grave.
Vous êtes en détente, là. Hein. Tranquille.
Vous avez...
J'ai surtout un œil maquillé et l'autre pas, parce que du coup, j'étais en pleine question make-up.
Vous êtes Stanley Kubrick et... orange mécanique. Ça vous va très bien. Allez au boulot comme ça, Marie.
Mais oui.
On reste avec un demi-mascara. Je vous souhaite une très belle journée.
Ouais, vous
Et gardez votre prénom. Salut
Nova, pour que tu rêves encore.